Je suis Marie Rey, je travaille à la DRES, c'est la direction de la recherche des études et de l'évaluation et des statistiques. C'est le service statistique du ministère de la Santé et des Solidarités. Et je suis chef de projet sur les enquêtes autonomie. Je vais vous faire une présentation en cinq parties, mais ça va être assez inégal. D'abord, vous donner un cadrage sur de combien de personnes on parle quand on parle de vieillissement de la population. Après, je vais revenir sur qu'est-ce que c'est que la statistique publique, parce qu'on est un acteur un peu particulier. Je vais ensuite vous présenter les sources de référence avec, bien sûr, les grandes enquêtes dédiées auprès des personnes âgées, parce que j'imagine que c'est à ça que vous attendez, mais on n'a pas que ça. Donc, je vais aussi vous présenter d'autres sources plus régulières qu'on produit et qu'on met à disposition, donc que vous pourrez utiliser dans vos travaux plus tard. D'abord, un petit point de cadrage. Quand on parle de vieillissement, de quoi on parle ? Souvent, on prend comme limite la tranche de 60 ans. C'est d'ailleurs un âge qui est beaucoup utilisé pour faire la différence, faire le passage du handicap à la perte d'autonomie. Avec sa définition, on a 17,6 millions de personnes de 60 ans ou plus en 2022, et même à peu près 1 million de 90 ans ou plus. Et si on regarde où habitent ces personnes, vous voyez sur le graphique de droite, au début, entre 60 et 75 ans, soit 85 ans même, les personnes habitent très majoritairement chez elles. Et puis, l'âge et les problèmes de santé avançant, le taux d'hébergement en EHPAD augmente pour dépasser les 45% à 95 ans. Je vais à présent vous présenter un peu la statistique publique. Je ne sais pas si ça vous a déjà été présenté dans le passé, dans vos cours, pour ceux qui sont encore en cours. La statistique publique, elle est organisée autour d'un triptyque. On a d'abord le Conseil national de l'information statistique, qui est une organisation qui organise la concertation entre les producteurs et les utilisateurs de données. Donc c'est là que chaque fois que un service de la statistique publique va vouloir faire un nouveau projet, démarrer une nouvelle enquête, faire une nouvelle exploitation de données administratives, on va aller présenter notre projet au Conseil national de l'information statistique pour vérifier que les travaux n'ont pas été déjà faits, engagés par ailleurs, enfin que ça a vraiment une utilité en termes d'intérêt scientifique et d'utilisation d'argent public. On a aussi l'autorité de la statistique publique, l'ASP, qui, elle, veille au respect des principes d'indépendance professionnelle, d'impartialité, d'objectivité, de pertinence et de qualité dans l'élaboration des statistiques. Et enfin, on a le service statistique public proprement dit, qui est composé de l'INSEE et de ses services statistiques ministériels. Et ce SSP, il va concevoir, produire et diffuser les statistiques publiques. Donc l'ADRES, c'est le service statistique ministériel sur le champ de la santé et du social. Sa mission, ça va être du coup de fournir aux décideurs publics, aux citoyens et aux responsables économiques et sociaux des informations fiables, des analyses sur donc bien sûr les champs sanitaires et sociaux. En tant que SSP, on doit respecter un certain nombre de règles et on a un double cadre, on a un cadre français et un cadre européen législatif pour la production et la diffusion de statistiques publiques. J'ai affiché volontairement petit parce que de toute façon je ne comptais pas vous parler de tous, mais c'est pour que vous ayez, quand vous aurez le diapo, la liste. En gros, on a trois familles d'engagement qui sont réunies dans le code de bonne pratique de la statistique européenne. Une famille sur l'environnement institutionnel, on doit garantir l'indépendance professionnelle des personnes qui produisent ces statistiques, on doit se coordonner et coopérer entre nous. On doit respecter un certain nombre de règles sur le secret statistique et la protection des données, parce que ce que les personnes nous répondent ou les informations administratives qu'on reçoit ne doivent pas être lâchées dans la nature facilement. On doit respecter un certain nombre de procédures statistiques, donc on doit mettre en place par exemple une méthodologie solide, et on doit aussi toujours s'assurer que la charge pour les enquêtés ou pour les déclarants n'est pas trop lourde. Et enfin, on doit assurer un certain nombre de points sur les produits statistiques. Donc il faut que nos produits statistiques soient pertinents, qu'ils soient d'actualité, qu'on les publie le plus tôt possible, par exemple, et qu'ils soient cohérents et qu'on puisse les comparer entre eux. Maintenant, je vais passer aux sources, ce pourquoi je suis venue. Les grandes sources de référence sur le vieillissement, en général, on pense aux grandes enquêtes dédiées aux personnes âgées. Et effectivement, elles existent depuis la fin des années 90. Donc le service statistique public, le SSP, organise à peu près une fois par décennie, depuis la fin des années 90, des enquêtes sur le handicap et la perte d'autonomie. Donc la première édition a eu lieu en 98-99, c'était les enquêtes handicap, incapacité, dépendance. La première réédition a eu lieu en 2008-2009, c'était les enquêtes handicap, santé. Et puis sur le champ spécifique des personnes de 60 ans ou plus, on a eu une réédition entre 2014 et 2016 qui s'appelle les enquêtes CARE. À chaque fois, on va repérer selon toutes les définitions possibles du handicap ou de la perte d'autonomie, la situation des personnes, et on va voir leurs conditions de vie. À chaque fois, on va mettre en place un échantillonnage et un protocole de collecte qu'on essaie d'adapter le plus possible à la population. Et à chaque fois, on va aller croiser ces informations avec des informations administratives sur, par exemple, les prestations, sur les revenus. Je vais vous en parler beaucoup plus longuement tout à l'heure dans ma deuxième présentation sur les enquêtes autonomie qui sont sur le terrain actuellement et qui sont la quatrième vague de ces enquêtes de référence. Je vais juste faire un petit zoom sur les enquêtes CARE, au tournant des années 2015. Donc c'est des enquêtes qui ont été, parce qu'elles sont, d'abord elles sont vraiment bien dans notre sujet de ce matin, et puis elles sont déjà disponibles. Ce sont des enquêtes qui ont été mises en place après le débat national sur la dépendance de 2011. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte que on n'avait pas de moyen de mesurer le reste à charge lié à la dépendance pour les personnes. Et donc les enquêtes CARE, quand elles ont été construites pour être dans l'héritage des enquêtes précédentes, mais aussi pour permettre de mesurer le reste à charge lié à la dépendance. Du coup, une partie du questionnaire avait été entièrement retravaillée pour être consacrée au recueil de ces informations. Donc, par exemple, il y a eu une partie assez longue sur les prestations, les allocations perçues, sur la raison du non-recours à la totalité des heures d'aide autorisées. Et à chaque fois, on leur demandait de sortir leur papier quand ils avaient l'apport. On leur disait oh, « bah, très bien, sortez-moi le papier, on va regarder combien ça vous a... qu'est-ce que c'est votre plan d'aide, etc. » Donc, c'était vraiment des enquêtes très riches sur la perte d'autonomie et sur le reste à charge lié à la dépendance. Je vous disais, on n'a pas que ça dans le service statistique public pour suivre régulièrement la perte d'autonomie. Et heureusement, parce que vous vous souvenez, c'est au moins tous les 10 ans les enquêtes. Donc entre deux enquêtes, il se passe un peu de temps. En fait, on a plusieurs enquêtes. Mais à partir de là, ce ne sont plus les personnes directement qui sont interrogées, c'est les détenteurs des données. La première, c'est l'enquête annuelle sur l'aide sociale des départements. C'est une enquête qui est réalisé tous les ans depuis 1980, et chaque année on essaie d'appliquer le concept d'actualité des données. On publie en fin d'année N plus 1 les résultats de l'année au 31 décembre de l'année N. Ce sont des données qui sont agrégées, qui sont publiées en étant agrégées pour chaque département, et d'ailleurs on les récupère de toute façon au niveau agrégé pour chaque département, et on va avoir le nombre de bénéficiaires de dépenses et de dépenses de certaines prestations comme l'APA, l'ASH, donc on va avoir des ventilisations par grandes caractéristiques sociodémographiques. C'est une enquête qui est mobilisée pour une de nos publications annuelles qui s'appelle l'aide et l'action sociale en France. On publie également des indicateurs redressés en date adresse. Donc on a un sous-site sur le site de l'adresse où il y a des données plus détaillées qui ne sont pas encore individuelles et qui permettent d'avoir un grand nombre d'informations. L'intérêt de cette source, c'est qu'elle est exhaustive. On interroge tous les départements. On a du coup une granularité départementale et on peut faire des séries longues depuis 1980. Le point un peu plus négatif, c'est que c'est des données agrégées uniquement et que donc très vite, on va avoir envie d'aller avoir plus d'informations. Et par exemple, c'est cette enquête qui me permet de vous dire aujourd'hui qu'en décembre 2021, puisque les chiffres de 2022 ne sont pas encore diffusés, mais ça ne saurait tarder, on avait 1,326 millions de personnes bénéficiaires de l'APLA et que 40% de ces personnes vivaient en établissement. On a un deuxième type de sources que sont les remontées individuelles des bénéficiaires de l'APA et de l'ASH. Ça, c'est des sources qui sont un peu plus récentes. On a commencé en 2007. Et ce sont des remontées donc individuelles. Chaque année, tous les 4 ans, on demande au département de nous remonter de leur système d'information des informations sur leurs bénéficiaires de l'APA et de l'ASH, puisque c'est les départements qui payent ces prestations. Là, on va avoir des informations un peu plus importantes, donc de description des bénéficiaires, donc l'âge, le sexe, les ressources, est-ce qu'ils vivent en couple, et des descriptions aussi des plans d'aide. Combien leur a été attribué, est-ce qu'ils ont une aide humaine qui leur a été attribuée, des aides techniques, etc. Ça va être intéressant aussi parce que là, on a à nouveau l'exhaustivité avec une géolocalisation. Mais par contre, le niveau d'information des données va un peu dépendre du système de gestion des départements. On diffuse aussi ces données. Alors, je m'étais noté que ces données-là, elles nous permettent par exemple de vous dire aujourd'hui qu'en 2017, on avait un bénéficiaire sur deux de l'APA qui n'utilisait pas l'intégralité du montant d'aide humaine qui lui avait été attribué. Et que cette proportion elle est plus importante de 10 points pour les personnes les moins dépendantes que pour les personnes les plus dépendantes. Et puis un tiers des bénéficiaires de l'ASH, quel que soit le lieu de vie, donc qu'ils habitent à domicile ou en établissement, avaient au moins un obligé alimentaire. Ces données, elles sont disponibles au CASD, donc le centre d'accès sécurisé aux données. Et aussi, on a mis des tableaux détaillés départementaux sur les dates adresses et on a aussi mis en open data des RI qu'on appelle floutés. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a votre grand-mère qui percevait l'APA en 2017, on a les informations sur elle. Les données sont accessibles, mais il n'y a aucun moyen de savoir que c'est votre grand-mère. Parce que on respecte, je vous disais, on a des principes à respecter sur la sécurisation des données personnelles. Mais vous pouvez aller les utiliser si vous avez envie. En 2022, on a relancé ces remontées individuelles. Donc là, on les a appelées les remontées individuelles des prestations sur l'autonomie. Et on a donc continué avec l'ASH, l'APA. Et on récupère aussi des informations sur la branche handicap. Jusque-là, ce n'était pas forcément les mêmes années qui étaient remontées. Donc là, ça va vraiment être un seul type d'année. La collecte est en cours. La collecte va se poursuivre aussi en 2024. On est en train de remonter des informations individuelles sur les années de 2019 à 2022. Et les objectifs, ça va être de pouvoir éclairer les cumuls d'aide. De faire aussi la bascule d'une prestation à l'autre. Parce que je vous disais, à 60 ans, il y a vraiment cette barrière de « je bascule de la prise en charge handicap à la prise en charge vieillesse ». Et donc là, on va pouvoir faire des études là-dessus. Et puis, on va enrichir les enquêtes autonomie, dont je vais vous parler tout au long de cette présentation, mais plus précisément dans la présentation d'après. On mettra bien sûr à disposition ces données, mais alors pas tout de suite, puisqu'on est encore en train de les collecter. On a également des enquêtes auprès des établissements d'hébergement de personnes âgées. Donc là, on quitte le champ du domicile. On est vraiment uniquement sur les établissements d'hébergement. Ces établissements, c'est les EHPAD, les résidences autonomie et les unités de soins de longue durée, principalement. C'est une enquête qui est quadriennale depuis 1985. La dernière édition, elle porte sur l'année 2019. Elle a été collectée en 2020. Et on est en train de préparer la collecte sur l'année 2023. La collecte va débuter en début d'année. Dans cette enquête, elle est exhaustive. Donc on écrit à tous les établissements d'hébergement de personnes âgées de France et on leur demande de décrire l'établissement. Donc quelle est leur taille, qu'est-ce que c'est leur bâti, comment ils sont organisés en termes de gestion, d'organisation. On leur demande aussi de nous décrire leur personnel. Donc on leur demande leur sexe, leur âge, qu'est-ce que c'est leur fonction, leur diplôme. Et puis on leur demande aussi de décrire leur résident au 31 décembre de l'année. Donc leur sexe, leur âge, leur niveau de dépendance. En 2011, on a écrit à 11 000 établissements. En 2019. Donc ce sont des enquêtes qui sont très sollicitées pour l'aide à la décision. Notamment, elles ont été très très fortement mobilisées au moment de la crise sanitaire, mais aussi au moment où on s'est posé des questions sur les revalorisations des salaires des personnels. Donc je vous disais, gros point positif, c'est exhaustif. On a une vision complète de la vie de l'établissement. le questionnaire est très stable dans le temps, donc on va vraiment pouvoir avoir des séries longues. Mais par contre, on a toujours peu de variables individuelles. Et en 2020, on a eu un taux de réponse qui n'était pas très élevé. Alors pour nous, pas très élevé, là c'était 66%. On peut comprendre les EHPAD, c'était en plein pendant la crise sanitaire, ils avaient autre chose à faire que nous renvoyer des questionnaires. Ces données, elles sont aussi accessibles. Alors on les diffuse à nos partenaires des agences régionales de santé. On les diffuse sur Quetelet Projet d'eau, au CSD également. Et puis il y a des tableaux détaillés sur les dates adresses. On est en train de construire de nouveaux dispositifs, notamment BADIAN, la base de données interadministrative des établissements sociaux et médico-sociaux. Cette base, donc à terme, elle va vraiment avoir pour but de couvrir tout le champ des ESMS, mais pour l'instant, on l'a construit par briques et pour l'instant, on est vraiment sur le champ des EHPAD. Le but de cette base, c'est qu'elle soit annuelle, donc on puisse faire des comparaisons dans le temps. Et en fait, on va chercher à, vous souvenez, on disait mettre en cohérence les données. On va chercher vraiment à mettre en cohérence des informations qui arrivent de plusieurs sources. Donc d'abord la base du répertoire FINES, qui est le répertoire où on homologue tous les ESMS qui ont une autorisation. Le tableau de bord de l'ATIH, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, qui réalise en fait une remontée d'informations chaque année sur l'activité des ESMS, mais sur un certain nombre de questions. Les bases qui sont issues de EHPA 2019, parce que notre premier point de BADIAN, c'était 2019. Et puis la CNSA, par exemple, a des informations sur les prix, donc on va aller les récupérer. La première base de 2019 est déjà accessible au CASD. Et on est en train de construire les bases 2020 et 2021. Et puis petit à petit, on va intégrer de nouvelles données. Par exemple, d'autres bases de la CNSA sur des états pathologiques, sur des données comptables, mais aussi des données de Fidéli pour les revenus des résidents. Fidéli, c'est une base de logement et d'individus qui est gérée par l'INSEE, issue de sources fiscales. Et on va faire la diffusion au fur et à mesure des enrichissements. Ça, c'est nos sources. Parfois, souvent, on les réutilise. Et on vous met à disposition nos nouveaux outils. Et c'est souvent des modèles. Alors le premier, c'est le modèle Livia, ou lieu de vie et autonomie. C'est un modèle qui nous permet de faire des projections de personnes âgées dépendantes à un horizon. Donc là, le dernier exercice, il a été fait avec le dernier point de 2015, des projections jusqu'en 2050. Ça va nous permettre de faire des projections départementales par sexe, par âge et degré d'autonomie de personnes âgées dépendantes. Comment on fait ça ? On va d'abord utiliser des projections de personnes âgées qui sont issues d'un modèle. Alors là, je vous ai mis le terme, enfin le nom du modèle, mais c'est pas très joli. Mais c'est un modèle qui est réalisé par l'INSEE et l'ADRES, en conjointement avec l'ADRES. Et ensuite, on va appliquer un certain nombre d'hypothèses sur l'évolution, par exemple, du nombre de places en EHPAD. Donc on va faire des hypothèses et on va faire des scénarios. Et on va aussi diffuser ces scénarios. Donc par exemple, on va se faire un scénario où on va dire la répartition EHPAD-domicile, elle va rester constante dans le temps. On va se faire un scénario où on va dire, là, on bloque le nombre de personnes en EHPAD. Et puis maintenant, tout le nombre supplémentaire de personnes âgées va rester à domicile. On va se faire des scénarios, on va se dire, les personnes, quand elles vont gagner en espérance de vie, ça va être systématiquement bonne santé. Ou alors, elles vont être, ça va être moite-moite, bonne santé, pas bonne santé. Et à partir de ça, on va pouvoir faire des projections. On a des nouvelles projections de population en cours. Donc là, le gros intérêt, ça va être d'avoir une maille départementale, donc ça va vraiment pouvoir aider à préparer les politiques publiques. Mais par contre, comme c'est des modèles de simulation, on a toujours des hypothèses à affiner, des modèles à rebaser. Donc là, on est en train de faire de nouvelles projections. Mais sachez que donc, sur ces travaux-là, le code est ouvert sur GitLab et les données sont accessibles aussi. Donc si vous voulez vous faire des travaux pratiques sur ces modèles, n'hésitez pas. Et par exemple... j'avais prévu l'exemple derrière. Donc par exemple, là, vous avez un graphique avec deux exemples de projection. La courbe du bas, c'est un, non, pardon, les deux courbes à chaque fois présentent le nombre de personnes dépendantes de 60 ans ou plus entre 2015 et 2050. Selon des hypothèses différentes. La courbe du bas rouge, c'est la courbe optimiste, c'est-à-dire que tous les gains d'espérance de vie se font en bonne santé. Et la courbe du haut, c'est le niveau intermédiaire, c'est-à-dire que les gains en espérance de vie, on se dit que oui, il y aura des gens qui vont rester en bonne santé, mais d'autres qui vont être en mauvaise santé. Et donc, par exemple, on voit qu'entre 2050, en 2030, on aurait entre 160 000 et 320 000 seniors de plus dépendants par rapport à 2023, et en 2050, entre 400 000 et 1 100 000. Donc, c'est des fourchettes qui sont assez larges. Mais par contre, on voit qu'il va falloir qu'on réfléchisse très sérieusement à comment on prend en charge le vieillissement et la dépendance en France. On a aussi un modèle de micro-simulation qu'on a appelé Autonomix, qui permet de simuler le financement de la dépendance et le reste à charge des seniors. Alors le champ de ce modèle, c'est domicile et établissement. Et comment on fait ça? En fait, on récupère les réponses des données d'enquête. Actuellement, le modèle il est basé sur les enquêtes CARE. Donc on a pris les répondants à l'enquête CARE, l'enquête à domicile et l'enquête à l'établissement. Et on en a fait un échantillon représentatif de la population des 60 ans ou plus. Et ensuite, pour pouvoir faire des simulations, donc là, on a une photo en 2015-2016. Et ensuite, pour pouvoir faire des simulations, puisqu'on travaille toujours dessus en 2023, on va faire vieillir cette population, on va la faire évoluer pour qu'elle continue à ressembler à la population actuelle. Je finis là-dessus, j'ai oublié de vous dire à quoi ça sert. Et on va donc faire vieillir les données, c'est-à-dire que chaque année, on va faire en sorte que on va recaler notre population pour qu'elle reste représentative de la population actuelle, puisque la population vieillit. Donc par exemple, on a de plus en plus de... Enfin, elle vieillit pas, mais le papy-boom fait que notre pyramide des âges des seniors évolue assez rapidement. Et puis chaque année, on va aussi recalculer si les personnes avec leurs ressources seraient bénéficiaires de l'APA, de l'ASH, etc. Donc à chaque fois, on va recalculer en fonction des barèmes en cours pour ces données. Et derrière, ça va nous permettre d'avoir une base qui va nous permettre de faire du reste à charge lié à la perte d'autonomie. Donc on va pouvoir simuler des aides financières avec des aides, des crédits d'impôt, etc. Le gros intérêt, c'est que on a une diversité des données en entrée et on va pouvoir simuler énormément de choses. Le point à améliorer, c'est que, comme tout à l'heure, c'est un modèle, c'est toujours en développement, on affine toujours nos hypothèses. Le code est ouvert sur GitLab. Et vous pouvez le faire tourner sur les RI floutés, donc qui sont accessibles en libre accès, et aussi sur les données de CARE qui sont disponibles au CASD sur et sûrement sur Projet d'eau pour une partie peut-être un peu caviardée. C'est un modèle qui a été très très utilisé pour toutes les simulations pour la préparation de la loi Grand Âge qui n'en finit pas d'arriver à l'Assemblée nationale depuis 4 ans. Je vais vous donner un petit exemple. Pour la prise en charge de la dépendance et du taux d'effort selon le revenu du bénéficiaire. Alors ça, c'est pour les personnes à domicile. C'est un graphique très lourd. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est que à gauche, l'abscisse, vous avez le niveau de revenu des personnes. Donc à gauche, c'est les personnes qui ont moins de 869 euros par mois et qui sont bénéficiaires de l'APA. Pour ces personnes, elles ont un plan d'aide de l'APA qui leur a été attribué à hauteur de 607 euros. Le premier bâton, le plus bas, nous indique qu'elles ne consomment pas 71 euros de son plan. Vous vous souvenez, les personnes les moins dépendantes, en fait, elles ne consomment pas forcément toute leur enveloppe. Et elle n'a pas de reste à charge. Et son taux d'effort est nul. Et donc ça, c'est la courbe en bleu qui va augmenter petit à petit. Et de l'autre côté, donc tout à droite, c'est pour une personne qui a plus de 2579 euros et qui est bénéficiaire de l'APA. elle a un plan d'aide attribué qui est de 664 euros. Mais en fait, tout n'est pas versé par le conseil départemental. Il y a 91 euros qu'elle ne va pas consommer de son plan d'aide. Il y a 240 euros qui, en réalité, vont être financés par le crédit d'impôt. Et puis, elle a 245 euros qui vont lui rester à charge. Et donc, son taux d'effort, c'est d'un peu plus de 7%. Et du coup, bah, par exemple, si on veut simuler, enfin, on va pouvoir simuler les effets d'une réforme sur la prise en charge de la dépendance et sur qui ça va impacter le plus. Donc, est-ce que ça va impacter les plus pauvres ou les plus riches? Donc, qu'est-ce que ça ferait si on diminue les crédits d'impôt, si on augmentait l'APA globalement? Je reviens sur la partie mise en cohérence. Alors, ce tableau, c'est pareil, il n'est pas lisible. Je le sais, c'est fait exprès. C'est pas pour le lire. Ce tableau, il vous indique qu'il y a 515 000 ETP, donc personnes en équivalent temps plein, pour la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées. La première partie en gras, c'est le recensement des personnes qui travaillent à domicile, qui prennent en charge la dépendance à domicile. La deuxième partie en gras, c'est les personnes qui prennent en charge en établissement. Et après, on a, selon que l'organisme qui emploie ces personnes est dans le domaine privé, lucratif ou associatif ou public. Le but de cette diapo, c'est vraiment de vous montrer la diversité des intervenants qui s'occupent des soins des personnes âgées. Donc on a vraiment, on a vraiment une grande multitude d'intervenants. Et à chaque fois, il y a un système d'information dédié pour la gestion de ces ETP. Et donc à chaque fois, on va aller chercher les informations dans ces systèmes d'information dédiés. Ce qui fait que pour pouvoir faire ce tableau, on n'a pas utilisé moins de 8 sources. Alors c'est pareil, là les sources elles sont écrites en tout petit, mais par exemple on a utilisé l'enquête EHPA 2019, on a utilisé Badiane dont je vous ai déjà parlé, mais celle que je ne vous ai pas présentée, c'est par exemple on a utilisé la statistique annuelle des établissements de l'adresse de 2019, on a aussi utilisé des données du système national de données de santé de 2019. Donc c'est vraiment, dans nos travaux, il y a vraiment ces travaux de mise en cohérence et de mise à disposition du public. Là, c'est un tableau qui est issu d'une de nos publications dans notre collection phare qui s'appelle Études et résultats. Et dernier modèle, et j'en aurai fini pour cette première partie, c'est des indicateurs. On a commencé à créer des indicateurs d'accessibilité potentielle localisée. Alors là, je vais vous montrer juste un exemple, mais en gros, on va pouvoir, grâce à cette source, regarder un certain nombre d'indicateurs et est-ce qu'ils sont accessibles en fonction de notre lieu de vie. Et donc, le lieu de vie, c'est localisé à la commune. Là, par exemple, la carte qui est affichée, ça vous montre l'offre du nombre donc, d'ETP, toujours équivalent temps plein, de professionnels du secteur sanitaire et médico-social pour la prise en charge de la perte d'autonomie en 2019. On considère que on a créé une fonction, enfin pour voir cette accessibilité, on regarde, on prend en compte le temps d'accès entre le bénéficiaire et le professionnel. Donc on regarde tous les ETP qui sont accessibles à moins de 60 minutes et on a une fonction qui dit bon par contre quand la personne est accessible à 60 minutes, c'est quand même moins accessible que quand elle est accessible dans le village où on habite. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a vraiment une grande disparité de l'offre en termes de densité et de nature. En termes de densité, par exemple, donc là, c'est les indicateurs, ils sont pour la partie tout en rouge, enfin tout en le plus fort. Ça veut dire qu'on a plus de 3670 professionnels en ETP pour 100 000 personnes de 60 ans ou plus. Et vous voyez, on voit bien que quand on est une personne âgée et en perte d'autonomie, probablement c'est mieux d'aller en Bretagne que un peu au nord-ouest de Paris là, parce que c'est bien rouge en Bretagne, mais dans le nord-ouest de Paris, autour de Paris et spécifiquement dans le nord-ouest, là l'accessibilité est beaucoup moins forte. Ces données, elles ont été publiées dans une étude des résultats, mais elles sont aussi disponibles en date adresse, en données déjà agrégées.